Le programme régale, retrouvons ensemble le goût des aliments locaux.
Vincent Lelor, chargé de mission agriculture durable au parc naturel régional de Millevaches, en charge du programme régale.
C'est un programme de sensibilisation à l'alimentation locale, autrement dit, comment on peut introduire, réintroduire plus de produits locaux dans nos menus, dans nos assiettes, qu'elles soient les assiettes des particuliers ou de la restauration collective. Ce programme-là est porté par le PNR de Millevaches depuis 2015 et il est acté qu'il doit se poursuivre à minima jusqu'en 2020.
On parle d'aliments locaux. Quel rapport avec le circuit court et les produits bio, par exemple ?
Alors, la notion de local, c'est une notion, on va dire, à géométrie variable. On va dire que... On considère globalement, il y a à peu près un consensus là-dessus, je pense qu'on peut le dire, sur le fait que on considère ce qui est local, c'est grosso modo ce qui est à 80 km du point où on le mange, en fait. Donc on va parler du produit local. Le circuit court, c'est une notion un petit peu différente. Ça fait référence au nombre de structures qui vont intervenir entre le producteur et la personne qui mange le produit. C'est-à-dire qu'un circuit court, tel que le définit l'État, c'est 0 ou 1 intermédiaire. Autrement dit, c'est soit on passe directement du producteur au consommateur, ou soit on passe du producteur à un intermédiaire, par exemple une boucherie, et au consommateur. Donc le circuit court, c'est cette notion-là, ce qui fait que, concrètement, si j'achète du vin par correspondance, si je suis par exemple à Londres et j'achète du vin par correspondance dans le Bordelais, je reste en circuit court. Du coup, on fait une distinction aujourd'hui entre le circuit court et le circuit de proximité, où le circuit de proximité, on s'éloigne un peu plus, on est moins formel en fait sur le nombre d'intermédiaires, il peut y en avoir 2 par exemple, mais par contre cette idée que l'aliment que je mange, eh bien il a une origine locale en fait.
Aujourd'hui avait lieu à l'école forestière de Memac une formation sur les normes d'hygiène en restauration collective. Comment vous avez découvert le programme Régale et pourquoi vous avez décidé d'y participer ?
Eh bien moi j'ai été contactée par le lycée agricole d'Ain pour animer cette formation.
Martine Lambert, chef technicien à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Creuse, en charge du contrôle de la restauration collective.
J'ai été contactée par M. Rochignat et donc, avec l'autorisation de mes supérieurs, j'ai été autorisée à intervenir en Corrèze, parce que normalement, moi je ne dois intervenir qu'en Creuse.
Et moi, j'étais là uniquement pour parler des circuits locaux, mes approvisionnements en cantine par rapport à mes producteurs.
Véronique Bonneau, cuisinière à l'école de Champagnat et formatrice en technique culinaire au centre de formation professionnelle pour adultes d'Ain.
Faire comprendre aux autres cuisiniers qui étaient là aujourd'hui qu'il fallait aller vraiment les démarcher et pas attendre qu'ils viennent nous démarcher, parce que déjà ils n'ont pas beaucoup de temps, ces producteurs, et puis ils n'ont pas forcément l'idée de penser qu'on peut avoir besoin d'eux.
L'intitulé exact de la formation, c'était « Normes d'hygiène en restauration collective, les possibilités réglementaires permettant d'intégrer sereinement des produits frais et locaux ». Un cuisinier doit-il être un équilibriste, un contorsionniste pour respecter les normes d'hygiène tout en cuisinant des produits locaux ?
Oui, je pense qu'il faut être un petit peu tout ça à la fois.
Martine Lambert et Véronique Bonneau travaillent avec nous dans le cadre, avec le CFPPA d'Ain, dans le cadre de la formation en restauration collective. Donc c'est une thématique qu'on a développée depuis 2 ou 3 ans là.
Hervé Rochignat, chargé d'ingénierie au CFPPA d'Ain.
Donc on a un certificat de spécialisation pour la restauration collective. Dans ce certificat, dans cette formation, donc, interviennent des experts, des cuisiniers, des spécialistes de l'hygiène et forment des cuisiniers pour travailler dans la restauration collective, pour utiliser les produits de proximité, les produits issus des circuits courts. Donc voilà, on travaille avec le PNR depuis pas mal de temps sur cette thématique-là, donc dans le cadre des journées régales. Et on forme des cuisiniers sur cette formation qui dure entre 5 mois. Mais on forme aussi des gens qui viennent se former sur des thématiques précises, comme l'hygiène ou les techniques culinaires. Donc des employés de communes, des employés de structures plus importantes qui viennent réapprendre ou trouver des idées et des recettes pour travailler les produits issus de l'agriculture locale.
Sans être exhaustif, c'est quoi les principales normes d'hygiène en restauration collective à respecter aujourd'hui ? C'est quoi la philosophie générale ?
Alors, c'est de mettre en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène. C'est-à-dire qu'au niveau du personnel, il faut avoir une tenue réglementaire, de bonnes pratiques par rapport au lavage des mains, au respect de la marche en avant, le respect des températures de stockage, les bonnes pratiques au moment de la fabrication et de la cuisson, le respect de la chaîne du froid, le respect de la chaîne chaude, et puis, disons, de garder la traçabilité des produits, de faire des autocontrôles, mais il y a tout un tas de choses qu'il faut contrôler, et c'est vrai qu'on en demande de plus en plus aux cantiniers ou aux responsables de collectivités. Mais bon, la réglementation est ainsi faite, mais moi je vois au niveau de la Creuse, il n'y a eu aucun souci, ça s'est fait sur plusieurs années, mais ça s'est bien maintenant, c'est à peu près rentré dans les clous, hein, si je peux me permettre de dire ça. Il y a à peu près dans chaque cantine et chaque collectivité un plan de maîtrise sanitaire qui est bien suivi par le personnel, et lorsqu'il y a des anomalies, on le signale lors d'une inspection et le personnel fait, disons, le nécessaire pour rectifier la non-conformité. Ça a mis du temps. Je crois qu'il faut que les gens intègrent ce qu'on leur demande, et je crois qu'il faut qu'on leur explique le pourquoi de ce qu'on leur demande. Pas leur demander bêtement de remplir des papiers, mais de leur expliquer le pourquoi de telle ou telle demande de la part de l'administration. Parce que s'il y a une suspicion de toxi-infection alimentaire, il faut que le cuisinier soit capable de nous dire, eh ben voilà, ce produit, je l'ai acheté tel jour, je l'ai reçu à telle température, c'est tel lot, j'ai fait ma recette de telle façon. Il faut qu'on essaie de trouver la faille qui peut expliquer l'apparition de cette toxi-infection alimentaire. Les causes sont nombreuses, hein. Ça peut être une matière première qui peut être contaminée, ça peut être une mauvaise manipulation de la part du personnel, ça peut être un problème de rupture de chaîne du froid. Les causes sont des fois difficiles à trouver, hein. On ne les trouve pas systématiquement, mais et puis si c'est une matière première, et bien ça déclenche une alerte et le retrait des produits qui sont défectueux. Parce que bon, les causes alimentaires sont des fois difficiles à trouver, mais ça peut être aussi l'eau, un virus, hein, parce qu'il y a des fois des virus qui traînent. Et puis en collectivité, il suffit d'une personne contaminée et puis tout le monde est malade, quoi, hein, surtout dans les maisons de retraite et choses comme ça. Hein. Ou même, à partir du moment où les gens ils vivent ensemble, les microbes, ils se les transmettent. Hein. Donc il faut toujours essayer de trouver le pourquoi d'une intoxication. Et puis, donc si toutes ces mesures-là du PMS, du plan de maîtrise sanitaire sont mises en place, ça aide les services de contrôle, ça permet de justifier. Et puis le responsable d'établissement aussi, disons, peut donner des réponses, quoi. C'est ce qu'il faut avant toute chose. Essayer de trouver et d'apporter des mesures correctives.
Ces normes sont une sécurité pour les usagers. En tant que cuisinière d'une cantine, est-ce que vous vivez ces normes comme étant un frein à votre inventivité, à vos envies ?
Non, c'est pas un frein, c'est juste qu'on prend bien conscience de la responsabilité qu'on a de donner à manger aux enfants. Donc il faut les appliquer, hein, il n'y a pas d'autre solution.
Le programme Régal valorise les aliments locaux. Comment concilier des normes d'hygiène de plus en plus strictes avec ces produits locaux ? Je prends l'exemple des légumes qui ont encore un peu de terre.
On peut tout simplement, lorsqu'on projette de travailler avec un producteur maraîcher, on peut très bien déjà dire au départ ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Moi, j'ai des légumes qui m'arrivent, ils sont impeccables, mes légumes, j'ai aucun souci de ce côté-là. C'est juste de la bonne volonté de la part du maraîcher. Hein. Après, c'est un arrangement entre nous. Le fait de se connaître depuis bon, plusieurs mois, années, bah, fait qu'il y a une amitié qui s'installe aussi. Mais c'est ça qui est très agréable dans ces circuits très courts.
En ce qui concerne les légumes terreux, au niveau réglementaire, en principe, dans les cuisines qui ont été refaites, il y a une zone qui s'appelle la zone légumerie, qui a été en principe pensée et mise en place lors de la restructuration de la nouvelle cuisine, mais il existe encore, malheureusement, toutes les cuisines ne disposent pas toutes d'une légumerie, mais après c'est une question d'organisation de travail dans le temps. Il suffit de s'organiser, par exemple de commencer le matin par faire tout ce qui est sale, légumes terreux. Si on ne possède pas un évier pour, spécialement pour laver les légumes, on utilise des bassines qui sont dédiées à ce process. Et après, une fois que les légumes sont propres, décontaminés, on les emmène vers une zone propre. Et après, on nettoie la zone légumerie, hein, et on évacue les déchets, on désinfecte. Et après, on peut se remettre à travailler un aliment sain, un aliment propre. Hein, il n'y a pas de souci. Après, c'est une question d'organisation, de l'utilisation de l'espace dans le temps et dans l'espace. Hein, il faut bien s'organiser, c'est tout. Hein, parce que malheureusement, toutes les cuisines de France ne sont pas aux normes. Mais après, c'est qu'une question d'organisation. C'est tout.
Pour parler à nouveau des producteurs, les maraîchers, les éleveurs, comment vous travaillez avec eux? Comment vous les rencontrez?
Ah ben, y a pas de secret. Il faut aller sur les marchés, à leur rencontre et discuter avec eux, leur parler de notre projet. Et après, si toutefois c'est possible pour eux, c'est très bien. S'ils ne peuvent pas livrer la quantité, pourquoi pas en trouver deux ou trois? Ça allégera autant le maraîcher, le premier ou le deuxième ou le troisième. On va dire c'est la quantité. Du moment que ma quantité est là, que je passe par un, deux ou trois maraîchers, le travail en plus, il est juste à moi d'aller les chercher et puis de leur commander à chaque fois. Mais comme pour le reste, c'est une question d'organisation. Hein. Une fois que la routine est faite, ça se passe très bien.
Et comment vous êtes reçu par un maraîcher, un producteur que vous allez rencontrer pour la première fois? Est-ce qu'il sait qu'il peut vendre ses produits à des restaurations collectives?
Souvent, non. Souvent, ils sont étonnés. Après, ils ont peur des règles d'hygiène, tout ça. Donc, on leur explique qu'il leur faut pas forcément un agrément. Ça dépend ce qu'ils veulent nous livrer ou ce qu'on leur demande. Et ils ont souvent peur de ne pas pouvoir fournir aussi. C'est pour ça qu'il faut regrouper, en fait.
Pour un producteur, moi je regarde surtout quand je contrôle les cantines en Creuse, je regarde si cette personne est déjà déclarée auprès de la DDCSPP et si cette personne n'a pas un agrément CE, un agrément communautaire, il faut que cette personne dispose d'une dérogation à l'obligation d'agrément. Ça c'est un CERFA à remplir et puis il y a différents CERFA. Il y a un CERFA pour les petites tueries de volailles qui veulent fournir une collectivité. Ils sont limités en nombre de volailles par semaine. Il y a un CERFA pour une exploitation qui veut livrer du lait cru auprès d'une cantine scolaire. Et il existe aussi un CERFA de dérogation pour toute personne qui veut livrer des denrées animales ou d'origine animale, autre que le lait et la volaille. Mais il y a quand même des choses en circuit court qui ne sont toujours pas autorisées. Par exemple, un producteur de viande n'a pas le droit de fournir de la viande hachée pure. Voilà. Hein, à partir du moment où ils ajoutent un certain taux de sel, ça s'appelle une préparation de viande, et ils ont le droit de fournir une collectivité. Il y a des choses qui sont... Il y a peu de choses qui sont interdites, mais en fin de compte, il suffit que le professionnel, l'agriculteur qui veut commercialiser ses produits, rentre en contact avec la DDCSPP de son département, à Tulle, en Corrèze, à Guéret, dans la Creuse, ou à Limoges, dans la Haute-Vienne, et puis qui rentre en contact avec les techniciens ou les vétérinaires, et on leur donnera la réponse en fonction de ce qu'ils veulent produire. Mais bon, ils sont quand même tenus à respecter tout ce qui est chaîne du froid, étiquetage, hein, surtout pour tout ce qui est viande sous vide, et puis surtout respecter la chaîne du froid. Un producteur laitier peut fournir s'il est déclaré, des laitages, du lait, il n'y a pas de souci, il y a plein de choses qui peuvent... Par contre, des services vétérinaires, on ne regarde pas trop les légumes. Les fruits et légumes, c'est plutôt la DDCCRF, la répression des fraudes, concurrence, consommation, répression des fraudes.
L'utilisation de produits locaux, ça a un impact sur le budget de la cantine, sur le prix du ticket?
Pour la viande, parfois. Après, en ce qui concerne les fruits, les légumes, les fruits, on n'en trouve pas beaucoup forcément dans notre région, mais au niveau des légumes, non. Moi, j'ai réussi à faire des repas en produits locaux, entrée, viande, légumes, fromage, dessert, jusqu'à 1,50 € par enfant. Donc non, on trouve des choses même moins chères chez les producteurs que dans les grandes surfaces. Hein. Et ça, c'est sûr, il n'y a pas photo.
Comment s'est passé, je le rappelle, vous avez animé une matinée de formation. Comment s'est passée cette matinée?
Eh bien, on peut dire que le public qui était composé d'élus, de cantinières, de responsables de collectivités, d'EHPAD, a bien réagi. ils ont quand même été assez réactifs, ils ont posé beaucoup de questions. Et puis ça s'est passé en bonne intelligence et en bonne ambiance. Franchement, ils étaient intéressés. Ça a été très agréable, ils ont posé des questions. Moi, ça m'a bien convenu.
Des élus, des cuisiniers, des cuisinières, des responsables, des personnes déjà conquises, sceptiques, curieuses?
Il y avait déjà pas mal de cuisinières qui travaillaient déjà avec des produits locaux. Donc, comme ça, on savait bien de quoi on parlait et c'était bien intéressant.
Je rappelle que vous êtes formatrice en restauration collective. Comment a évolué le métier?
On a beaucoup, beaucoup évolué. Je vais parler de mon expérience. Quand je suis arrivée il y a 20 ans dans l'école de Champagnat, j'avais encore la livraison des légumes par les parents. Et puis, en fait, petit à petit, le nombre d'élèves a beaucoup augmenté. Donc, je suis arrivée jusqu'à 90 élèves pour moi seule, avec la réglementation qu'il fallait que je mette en place. Et prenant un petit peu peur, je me suis tournée, malgré moi, vers la grande distribution. Et depuis quelques années, là, donc, on retourne en arrière, grâce à l'ex-pays Combrailles en Marche, qui nous avait donc mis un peu le pied à l'étrier pour travailler avec les produits locaux. Et donc, de là, on est reparti sur des choses toutes simples. Réintroduire seulement un produit, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis, bon, maintenant, moi, personnellement, j'arrive à 8 ou 9 producteurs. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, le contact avec mes producteurs, mes maraîchers, c'est un régal.
Et à l'inverse, ça se passe comment le rapport avec les industriels de la grande distribution qui vous approvisionnaient avant?
J'ai toujours les mêmes grands groupes, mais comme je n'ai jamais eu personne en face de moi, ça a été très facile de réduire tout ce que je voulais.
On parle de produits locaux, est-ce que c'est une occasion de remettre au goût du jour des recettes traditionnelles dans les cantines? Recettes du Limousin?
Recette du Limousin, moi je fais comme tout le monde, je fais du hachis parmentier mais avec de la viande, pas avec du steak haché. Moi je la fais personnellement avec du bœuf lorsque je fais un pot-au-feu en fait, parce que les enfants n'aiment pas trop manger de la viande de pot-au-feu avec des légumes, carottes, navets, choux raves, c'est pas évident de leur faire manger. Alors que si on introduit tous ces légumes mixés dans la viande, et après, réparti dans le hachis parmentier avec notre purée, ça se passe impeccable. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils mangent les carottes, les choux raves, les navets. Et c'est une façon de leur faire manger.
On a beaucoup parlé des professionnels de la profession. Quel rôle pour les usagers de la restauration collective? Les parents, les enfants, les personnes qui mangent dans les cantines?
Les parents d'élèves, que ce soit aussi les élus, ils veulent un prix, ils veulent aussi bien manger maintenant. On a une demande, une attente du consommateur, ils veulent manger de la qualité, des animaux élevés dans les normes bien-être également. Donc je pense que tous les produits issus de l'agriculture locale ont une carte à jouer sur ces trois thématiques-là. Le prix, on l'a vu que ce n'était pas forcément un blocage. La qualité, on a toute la batterie de signes de qualité et les produits sont de qualité. Et puis il y a une réelle attente aujourd'hui du consommateur, y compris des parents d'élèves. Ils veulent que leurs enfants mangent de bons produits. Ça permet aussi, quatrième point, de maintenir une activité sur le territoire, des éleveurs, des producteurs sur le territoire, notamment dans nos territoires ruraux, quoi. Voilà, l'idée, c'est de maintenir une activité. Et parce que les éleveurs sont prêts, les cuisiniers sont prêts et les élus de proximité ont envie d'aller vers ça. Et c'est vrai que les choses sont en train de changer, on le sent, tout de suite là maintenant, depuis 2-3 ans, ça va très vite.
Je pense que ce qu'on constate également, c'est que les consommateurs sont demandeurs d'une confiance dans le mode de production, notamment, et que s'approvisionner en local, c'est non seulement une proximité géographique, mais elle va de pair avec une proximité relationnelle, où du coup, on établit cette relation de confiance.
Et d'une manière générale, comment le programme Régal est reçu sur le territoire du PNR?
Ce qu'on constate sur le programme Régal, c'est que le volet restauration collective, donc c'est effectivement un des trois volets du programme Régal. On a un volet qui s'adresse au grand public, un autre aux intermédiaires, et donc le volet restauration collective. Ce qu'on observe, c'est que tout simplement, quand on propose une formation ou une journée, globalement, on fait le plein. Donc, et que la participation est active et que les gens reviennent, on les retrouve sur différentes journées. Donc, avant de faire un bilan plus étayé, on a déjà ce retour-là qui, pour nous, est satisfaisant. Donc, on se dit qu'effectivement, on répond à des attentes, à des besoins.
C'est quoi les prochaines étapes du programme Régal ?
On continue les animations sur les jardins partagés. Donc là aussi, qui est une belle réussite. Aujourd'hui, il y a 14 jardins qui sont accompagnés sur tout le parc. Donc ça va se poursuivre jusqu'à fin juin, globalement, fin juin 2019. Et on a encore des actions au niveau restauration collective. Une journée de formation sur... l'accompagnement à la gestion de budget pour introduire plus facilement des produits locaux, quelles sont les clés qu'on peut utiliser pour maîtriser son budget tout en introduisant des produits locaux. Et puis il va déjà être temps de réfléchir aux perspectives. Qu'est-ce que veulent les acteurs de la restauration collective, le grand public, les communautés de communes, etc. Donc les perspectives 2019-2020. Bon, alors on va organiser aux environs de fin novembre, la date reste encore à caler exactement, une journée justement où on va faire un premier bilan du programme et on va réfléchir sur les besoins, les attentes, quelles sont-elles, pour essayer ensuite d'apporter une réponse à travers un programme d'action 2019-2020.